le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour le service protestant. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec aujourd'hui à mes côtés le pasteur Gabriel Monet, actuellement professeur de théologie pratique, mais aussi doyen de la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève. Bonjour Gabriel Monet.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à vous chers auditeurs.
Alors vous êtes un habitué du service protestant, mais pour ma part c'est la première fois que je vous accueille dans nos studios. J'aimerais donc en profiter avant de vous écouter nous parler de transformation intérieure pour échanger un peu avec vous, pour mieux vous connaître et puis parler aussi de votre union d'église. Vous êtes donc pasteur de l'Union des Fédérations Adventistes de France, mais plus en poste sur une paroisse il me semble.
En effet, être pasteur peut amener à des missions et des fonctions très diverses. Puisque depuis que je suis pasteur, j'ai été en charge de paroisse donc, mais aussi responsable du mouvement de jeunesse, planteur d'église et depuis une douzaine d'années maintenant, je suis professeur de théologie pratique à la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève, en Haute-Savoie.
Alors quelques mots sur cette union membre de la Fédération protestante de France.
Alors l'église adventiste du septième jour partage l'essentiel de ses convictions avec sa famille protestante, que ce soit sur l'attachement de la Bible, à la liberté, au salut par grâce qui découle de la foi. Bref, les fondamentaux du protestantisme. Mais comme toute église dans la diversité protestante, elle a ses spécificités, ses accents, parmi lesquels on peut mentionner un focus sur l'espérance, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot adventiste, ceux qui attendent, sous-entendu le retour de Jésus, auquel croient tous les chrétiens, mais que les adventistes ont particulièrement réactivé lors de la fondation de cette église au milieu du 19e siècle. Le nom complet, adventiste du septième jour, évoque le sabbat auquel sont attachés les adventistes, le samedi, donc le jour de culte, et c'est un jour de repos, un jour différent, occasion de communion particulière avec Dieu. Alors, la communion n'est pas réservée à ce jour-là, bien sûr, mais elle est intensifiée, pourrait-on dire, à cette occasion. Enfin, je peux mentionner l'attachement des adventistes aux valeurs de l'éducation et de la santé. Les adventistes sont attachés à une vision chrétienne globale de l'être humain, où tous les aspects de nos êtres sont création de Dieu et donc sont concernés par le spirituel. Ainsi, prendre soin de son corps, manger sainement, est aussi une manière d'honorer Dieu. Voilà, dans cette dynamique, les adventistes sont très actifs et ont créé un réseau éducatif, école, lycée, université, et un réseau de santé, dispensaires, maisons de santé, hôpitaux, qui s'avère être aujourd'hui le plus important du protestantisme au niveau mondial.
Et alors la faculté adventiste de théologie, je crois que vous allez prochainement souffler des bougies 100 ans. En quelques mots, comment la présenteriez-vous ?
Alors oui, c'est tout le campus adventiste du Salève qui commence sa 100e année, dont la faculté est une des entités. Puisque toute la communauté éducative à Collonges représente environ 500 personnes entre l'école maternelle et primaire, un collège, un lycée, et puis trois départements universitaires. La faculté de théologie, qui forme notamment les pasteurs pour la francophonie adventiste, mais aussi un institut de langue française et un institut des sciences humaines qui propose un master en relations d'aide chrétienne.
Pour votre part, vous êtes professeur de théologie pratique. Qu'est-ce que cela représente concrètement ? On étudie quoi en somme dans vos cours ?
Alors la théologie pratique, c'est finalement une des quatre branches de la théologie universitaire, avec la théologie biblique, la théologie systématique et la théologie historique. Alors on a souvent cantonné la théologie pratique comme une branche d'application. Mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. La théologie pratique est une véritable instance d'analyse et de réflexion sur toutes les pratiques liées de près, voire de loin, à la foi, dans un sens très général. Alors cela touche bien sûr la vie de l'Église, l'art de la prédication, l'enseignement de la Bible, l'accompagnement pastoral, le témoignage, mais de manière plus globale, les enjeux liés à la manière de vivre sa foi aujourd'hui, le rayonnement du croyant.
Renseignement pris, j'ai cru comprendre aussi que vous affectionnez la question des rapports entre évangile et culture. Et d'ailleurs, c'est un point commun que nous avons par ailleurs.
Oui, effectivement, je m'intéresse à cette question de savoir comment conjuguer fidélité à l'évangile et pertinence culturelle. J'ai la conviction qu'à un niveau collectif, hein, l'Église, comme à un niveau personnel pour le croyant, eh bien, nous n'avons pas vocation à vivre dans une bulle isolée, protégée, mais au contraire, comme Jésus l'a si bien fait, à se mélanger parfois, à se confronter à la société dans laquelle nous vivons, pour y assumer une présence remplie d'espérance, alors bienveillante et fraternelle, finalement accompagner la quête de sens de nos contemporains en proposant des réponses consistantes aux questions fondamentales de l'existence. Et puis aussi, bien sûr, une spiritualité chrétienne qui apporte de la sérénité dans un monde bien souvent tourmenté, n'est-ce pas ?
Merci en tout cas Gabriel Monet pour ce petit moment d'échange. Avant de continuer, je vous propose d'écouter un morceau musical interprété par Quentin Sirjac, un musicien qui va nous accompagner d'ailleurs pendant toute cette émission. Vous êtes sur France Culture dans le service protestant et à mes côtés, le pasteur Gabriel Monet pour nous partager maintenant donc une réflexion dans laquelle il sera question de transformation.
Notre être est un tout. Il y a donc forcément un lien entre ce qui constitue notre être intérieur avec ce que nous pouvons dire et faire ou laisser voir. Dieu nous regarde avec tellement d'amour qu'il nous regarde avec bienveillance. Mais il ne s'arrête pas aux apparences. Dieu s'intéresse justement en particulier à nos êtres intérieurs. C'est vrai, on pense souvent au christianisme, comme c'est probablement le cas à propos de bien des religions d'ailleurs, en termes de signes visibles de la foi. Aller au culte, faire des prières, donner des offrandes, faire preuve de compassion par des gestes concrets, et j'en passe. Il s'agit souvent de donner l'image d'un bon chrétien, de quelqu'un de bien. Il n'y a rien de mal à cela, au contraire, mais est-ce là l'essentiel ? Il existe une formule biblique bien connue qui fait contraster le regard de Dieu de celui des humains. Lorsque celui qui allait devenir roi, David, a été choisi par Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel, ce dernier imaginait qu'un des grands frères du jeune berger allait être choisi pour la fonction. Mais au grand et fort Éliab, Dieu a préféré le jeune et frêle David, en ne se fiant pas aux apparences, car il discernait la foi, le courage, la profondeur du Benjamin de la famille. D'où cette belle pensée, l'être humain regarde à ceux qui frappent les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur.
Les apparences sont souvent trompeuses, comme on dit. C'est un peu la morale de l'histoire, non ?
Oui, et c'est la morale plus que de cette histoire-là, car c'est finalement une constante de la révélation biblique que de s'intéresser au cœur de l'homme, à l'être intérieur. Divers prophètes ont insisté pour laisser Dieu remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. L'apôtre Paul, lui, a bien mis en évidence le bien fondé de l'homme intérieur en opposition avec l'homme extérieur. Contraste que l'on retrouve aussi, sous la plume de l'apôtre, entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Alors, que ce soit en lien avec l'espace ou avec le temps, Paul favorise le présent, n'enfermant personne dans le passé, comme l'intérieur, lieu de l'authenticité, contraire à la possible façade de l'extérieur. L'être intérieur est valorisé car c'est le lieu de la rencontre avec le divin. Ce n'est pas que le corps soit négatif en soi, au contraire, même si l'expression de ce qui est charnel est dévalorisée. Dieu a une vision positive du corps, c'est lui qui l'a créé. mais il a surtout créé l'humain comme un tout, où il est vrai que la dimension intérieure est particulièrement valorisée.
Au regard de la Bible, comment tout cela se décompose, si j'ose dire? Alors le tout cela étant bien entendu, vous l'aurez compris, l'humain.
Alors, comprendre les différentes dimensions de l'être humain, c'est un défi. Parfois, on évoque que l'Ancien Testament met en œuvre deux dimensions, celle du corps et celle du souffle de vie qui nous anime, en se basant sur le récit créateur, d'un Dieu qui crée l'humain de la poussière de la terre et de son souffle. Le Nouveau Testament, lui, évoque dans un passage biblique comme 1 Thessaloniciens 5:23, trois dimensions, puisque Paul évoque, je cite, « l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps ». L'être humain serait donc composé d'une dimension physique, le corps, d'une dimension psychique, l'âme, le mot « âme » se dit « psyché » qui a donné « psychique » en grec, et d'une dimension spirituelle, l'esprit. Mais ces compréhensions sont probablement incomplètes au vu de la complexité, de la richesse de ce que nous sommes. C'est probablement pourquoi la Bible utilise en fait une belle variété de termes pour évoquer notamment la vie intérieure. Ce ne sont pas forcément d'ailleurs des dimensions distinctes, mais malgré tout, chacune de ces dimensions met en évidence certains éléments spécifiques. J'ai retenu sept mots, cette métaphore, cette dimension de l'être intérieur, mais ce n'est probablement pas exhaustif.
Bon, alors nous sommes curieux. Quels sont ces sept termes pour parler de ce qui nous fait être au plus profond de nous?
Alors, nous avons déjà évoqué l'âme. L'âme, c'est le siège de la volonté, là où se développe la capacité à réfléchir, à développer des pensées. C'est parfois plus largement donc toute la dimension psychique, là où se ressentent certaines émotions. Il y a donc aussi la dimension de l'esprit. L'esprit, c'est en fait littéralement le souffle. Ce mot est utilisé pour décrire l'esprit de Dieu ou l'esprit humain, qui parfois ne font qu'un lorsque l'esprit de Dieu est présent en nous. Sans que la dimension spirituelle soit absente de la notion d'âme, clairement la dimension de l'esprit ouvre à cette dimension de la transcendance, introduit à la relation avec le divin. Pour parler de l'être intérieur, la Bible parle également des entrailles. Siège de l'affection, de la tendresse, lieu d'émergence de la compassion, les humains peuvent voir advenir de leurs entrailles des frémissements intérieurs. Comme d'ailleurs la Bible parle des entrailles de Dieu pour évoquer l'affection qu'il a pour les humains. Il existe aussi l'intelligence. Pour nous, Européens cartésiens, on associe l'intelligence à l'intellect. Mais c'est probablement réducteur de n'en faire que le siège d'une pensée formelle, scientifique, dépourvue d'une potentielle dimension spirituelle. Du reste, Dieu invite les humains à l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme, mais aussi de toute leur pensée. Et donc cela correspond probablement à cette notion d'intelligence. Une autre métaphore de l'intériorité est évoquée par les reins, qui correspondent au siège de la volonté, lieu qui rend capable de se mobiliser, qui permet de ressentir de la joie ou de l'amertume. Il y a encore la conscience, à laquelle correspond la dimension éthique de notre être, lieu aussi de la présence de Dieu, avec cette nécessité de discerner entre le bien et le mal, ce qui est éminemment spirituel. Enfin, la Bible évoque allègrement et à de nombreuses reprises le cœur. Un terme probablement très inclusif qui, d'une certaine manière, rassemble les différentes caractéristiques de la vie intérieure déjà mentionnées. Bien sûr, le cœur, c'est le siège de l'affection, le puits de l'amour. Mais bibliquement, c'est plus que la fontaine de l'amour. C'est plus globalement le symbole de l'intime. Le cœur de l'homme vibre au gré du chagrin ou de la douleur, comme de la joie ou du bonheur. C'est le lieu de l'estime, de l'affection, du désir, qui se laisse envahir parfois par les soucis, la jalousie, etc. C'est là aussi que s'exprime la compassion. Alors, l'âme, l'esprit, les entrailles, l'intelligence, les reins, la conscience, le cœur, cette métaphore comme peut-être autant de dimensions de l'être intérieur. Or, dans chacune de ces pièces de notre appartement intérieur, si l'on peut dire, Dieu souhaite être présent. Et si besoin, il désire transformer ce qu'il y a de plus intime en chacun de nous.
Alors j'aimerais reprendre, Gabriel Monnet, dans vos propos, cette très belle expression, je trouve, pour parler de l'intérieur de l'être humain, les pièces de notre appartement intérieur. Alors je disais en ce début de service protestant que vous vouliez nous parler de transformation. Je pressens donc avec cette analogie de l'appartement une forme de relooking. Ça me fait penser aussi à ces émissions de télévision, vous savez, autour de la déco, ou mieux encore, ce que l'on appelle, je crois, le home staging, ces rénovations pour valoriser un bien et séduire l'acheteur. Va-t-on vers ce genre de choses-là dans ce que vous nous proposez? Serez-vous, Gabriel Monnet, ce matin, le Stéphane Plaza de l'âme humaine, si j'ose dire?
Alors, pas vraiment. Justement, car avec Dieu, les changements attendus et espérés sont plus fondamentaux, puisqu'ils ne se contentent pas de ce qui frappe les yeux. Alors, pour évoquer cette nécessaire transformation de nos êtres intérieurs, un verset marquant se trouve dans la Bible, dans l'Épître aux Romains. Paul déclare « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On distingue là une invitation à la métamorphose. J'utilise ce mot à dessein car c'est littéralement le verbe grec utilisé pour évoquer la transformation. « Soyez transformés », c'est-à-dire « soyez métamorphosés ». Or souvent, en imaginant une telle transformation, on la figure à l'aune du regard d'autrui. C'est lié à notre légitime besoin de reconnaissance. Mais ce faisant, le risque existe de chercher une transformation qui soit d'abord extérieure, avec la tentation de ne laisser advenir qu'une belle image. C'est d'autant plus un risque que notre société valorise les apparences, donc nos actes extérieurs. Travailler ou transformer son image est aujourd'hui synonyme d'une belle façade ou d'un beau profil extérieur, que ce soit en lien avec notre corps, notre look, ou nos profils sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais la notion d'image dans la Bible, et en particulier la notion d'image de Dieu, est tout sauf un masque, mais liée à l'intime, ce qui est caché dans la profondeur de nos êtres, l'étincelle de Dieu en nous. L'image de Dieu va purifier nos cœurs, libérer nos consciences, nourrir nos reins, rendre plein de compassion nos entrailles, transformer nos intelligences. L'apôtre nous lance donc cette exhortation « Soyez transformés ». Cette formule a, d'un point de vue grammatical, au moins quatre caractéristiques fort intéressantes. D'abord, c'est un impératif. En d'autres termes, aux yeux de Dieu, notre transformation n'est pas une option, mais quelque chose de nécessaire, d'important. Par ailleurs, c'est un impératif présent dans l'original grec, ce qui implique que ce n'est pas une action ponctuelle, mais une action continue.
Alors si on n'a pas fait de grec, vous pouvez peut-être nous expliquer cette subtilité?
Oui, en grec, on distingue l'impératif aoriste de l'impératif présent. Le premier sert à évoquer une action spécifique à un moment donné, alors que le dernier, donc celui qui est utilisé, sous-tend une action qui dure. Ainsi, puisque c'est celui-ci qui est utilisé, on n'est donc pas transformé à un moment ponctuel, une fois pour toutes, mais c'est un processus appelé à perdurer. Une juste traduction serait probablement « soyez continuellement en train d'être transformé ».« Soyez transformé », c'est donc, troisièmement, aussi un impératif pluriel. Quand nous parlons de vie spirituelle, nous pensons spontanément à notre relation personnelle avec Dieu. C'est d'autant plus vrai si on insiste, comme j'essaie de le faire, sur la transformation de la dimension intérieure de la vie spirituelle. Mais il importe de ne pas oublier la dimension collective, l'importance du groupe. Ce n'est pas pour rien que l'Église existe, puisque la communauté est un des canaux par lequel Dieu passe pour nous transformer. Enfin, ce « soyez transformés », c'est un impératif passif. Paul ne dit pas « transformez-vous », mais bien « soyez transformés ». Ce qui signifie que notre engagement personnel dans cette métamorphose sera peut-être utile, mais pas suffisant. Seul Dieu peut véritablement nous transformer.
Alors j'essaye de reprendre vos propos là. On est avec une transformation en profondeur donc, qui prend du temps, qui passerait donc aussi par une relation au divin. J'ai l'impression qu'on touche là à des concepts bien sûr très abstraits, avec le risque de déconnexion avec le réel, du moins l'extérieur, ce qui nous entoure, mais donc aussi ce qui nous fait vivre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est abstrait parce que cela semble invisible, mais cela peut et doit au contraire déboucher sur quelque chose de très très concret. On pourrait faire le parallèle avec la vie amoureuse ou amicale. Si notre cœur, donc ce qui ne se voit pas, est rempli de ressentiment ou d'inimitié pour quelqu'un, bien nous aurons du mal à lui dire des mots agréables, à faire des gestes tendres. Mais inversement, si on cultive un cœur aimant, respectueux, patient, tolérant, cela induira des actes concrets très positifs. Nous avons donc besoin d'être transformés dans nos êtres intérieurs parce que c'est le siège de l'essentiel, le lieu de la relation à Dieu, le creuset qui induit ce que nous sommes et aussi donc ce que nous faisons. Ce n'est pas en s'exerçant à des attitudes extérieures pieuses, aussi bonnes soient-elles, que notre cœur sera conforme à la volonté de Dieu. Mais c'est bien en laissant nos cœurs être changés dans ce qu'il y a de plus intime de nos êtres que pourront alors jaillir des paroles et des actes conformes à la volonté de Dieu. Dans son célèbre sermon sur la montagne, Jésus évoque cette importance de l'intériorité. Dans la première partie du discours, Jésus répond théologiquement à trois groupes religieux juifs de son temps. Aux Sadducéens notamment, il répond qu'on peut être croyant et heureux, d'où les béatitudes. Aux Esséniens, il évoque que l'isolement n'est pas la solution, que les chrétiens ont vocation à être sel de la terre et lumière du monde. Aux pharisiens, il dénonce l'amour de la loi comme une fin en soi, au bénéfice de la loi de l'amour. Puis il aborde des aspects de la vie spirituelle. Par trois fois, Jésus va utiliser une même formule qui dès lors doit retenir notre attention. Il parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Nous pourrions penser que ce sont là des preuves extérieures d'une vie chrétienne cohérente. En substance, Jésus affirme « Vous voulez paraître bon croyant pour montrer à tous que vous êtes généreux, que vous priez beaucoup, longtemps et bien, que vous jeûnez en le faisant savoir ?» Ces dimensions extérieures ne sont pas mauvaises en soi. Il ne s'agit pas de cesser de donner, de prier, de jeûner. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous en montrez. Sinon, cela vous amène dans une impasse, celle de ne se préoccuper que de l'image que l'on donne de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, dit Jésus, « Quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, je cite, « pour toi, fais-le dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et donc ce lieu secret, c'est l'intime, c'est l'âme, l'esprit, les entrailles, l'intelligence, les reins, la conscience, le cœur. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas tant la dimension extérieure de la religiosité que la dimension intérieure de nos êtres. Car il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur.
Tout ça peut nous bousculer, car vous nous parlez d'un Dieu qui fonctionne donc un peu à l'inverse de nous, surtout dans notre société actuelle, vous l'avez évoqué, où tout de même l'apparence a beaucoup d'importance.
C'est vrai que notre identité personnelle, notre identité chrétienne, dépend de ce que nous croyons et disons croire. C'est bien de croire et d'affirmer des croyances justes, mais cela ne suffit pas. C'est pourquoi aux croyances justes, ce que l'on peut appeler l'orthodoxie, il importe d'ajouter des pratiques justes, une orthopraxie. Il s'agit de mettre en cohérence les idées théoriques avec la vraie vie, le concret des relations et des engagements. Vie de prière, participation à l'Église, nos mœurs, nos relations. Jésus affirme que cela est très bien, mais que cela peut rester donc une façade extérieure. C'est pourquoi il importe d'avoir un cœur juste, des intentions justes. On peut appeler cela l'orthopathie, qui doit venir se compléter donc avec l'orthodoxie et l'orthopraxie. Et cela, l'orthopathie, ne peut advenir que si précisément nous laissons Dieu nous transformer de l'intérieur pour devenir ou être ce que nous sommes vraiment, qui Dieu veut que nous soyons. Cela a au moins deux implications, deux éléments essentiels à cultiver pour que cette transformation puisse advenir. Tout d'abord, la vulnérabilité, oser admettre nos limites. La vulnérabilité est souvent vue comme faiblesse. Je crois au contraire qu'elle est une force. En effet, si nous ne reconnaissons pas nos fragilités, nos manques, alors nous ne ressentons pas la nécessité de changer. Si nous nous croyons parfaits tels que nous sommes, alors nous devenons imperméables à toute intervention divine en nous. Nous devenons étanches à l'œuvre de l'esprit. Le deuxième élément est lié à la vulnérabilité, hein, et finalement assez proche. Il s'agit de cultiver l'authenticité, d'être vrai, prioritairement vis-à-vis de soi et vis-à-vis de Dieu, idéalement aussi vis-à-vis des autres. Alors, sans une certaine franchise, sans une réelle sincérité, la transformation risque de n'être que de la façade. L'authenticité nous permet de nous présenter devant Dieu, en vérité. Développer la vulnérabilité et l'authenticité revient à se considérer comme l'argile entre les mains du potier. Cela implique une forme de lâcher prise vis-à-vis de Dieu, une forme de confiance. Mais c'est précisément cela, la foi. Se laisser bercer entre les mains de Dieu, reconnaître et apprécier sa bienveillance, discerner sa volonté et cultiver un cœur pur, un cœur aimant. la première conséquence de la transformation de nos êtres intérieurs, avant même que cela ne débouche sur des paroles et des actes qui seront en cohérence avec l'état de notre cœur, c'est le changement de notre regard. Dans son sermon sur la montagne, juste après avoir insisté sur l'importance de ce qui se vit dans le secret, Jésus évoque que l'œil est la lampe du corps. Il fait référence à la lumière qui est en nous pour voir à bon escient. De l'état de notre être intérieur dépend notre capacité à voir avec justesse, amour et pertinence les situations et les personnes. C'est-à-dire en ne s'arrêtant pas aux impressions, mais discernant au-delà des apparences. Et si nous regardons ainsi, si nous réussissons à voir comme Jésus voit, alors nos vies prennent de la hauteur, nos relations se bonifient. Bref, nous vivons la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable et parfait.
Eh bien, merci, pasteur Gabriel Monnet, pour ce que je considère être des encouragements, des conseils pour nous aider aussi à mieux vivre ensemble et à mieux exister aussi soi-même, l'un, je pense, n'allant pas sans l'autre. Et puis tout ça sous le regard et dans la présence de Dieu. Peut-être encore quelques mots de conclusion avant de se quitter.
Je vous laisse avec cette parole célèbre, mais si pertinente, du psaume 103, que pourront faire leur tous ceux qui voudront donner la priorité à ce qui se passe dans le secret de nos êtres. Mon âme bénis l'Éternel. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Voilà. Puisse le souffle de Dieu remplir nos êtres intimes de sa présence pour nous transformer, d'abord de l'intérieur, et bien sûr, avec l'impact que cela pourra avoir dans nos regards, nos paroles et nos actes.
C'était le service protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec Benjamin Vignal à la prise de son. Mon invité ce matin, le pasteur Gabriel Monnet, professeur de théologie pratique et doyen de la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève. C'est sur le site de franceculture.fr mais aussi de protestantaupluriel.org que vous pourrez réécouter cette émission, également retrouver le texte de la méditation du jour. Le podcast, quant à lui, est disponible sur l'application de votre choix sous l'intitulé « Service protestant ». Vous pouvez enfin aussi nous écrire à Service protestant, 47 rue Clichy, 75 009 Paris ou plus simplement encore par email à communication@fédérationprotestante.org. Très bon dimanche à l'écoute de France Culture et tout de suite les informations, puis votre émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnin.